Radio Okapi.
Bonjour, à la une, l'appel du chef de bureau de la MONUSCO Goma qui invite la population de Bwito à se désengager des groupes armés qui cherchent à attiser le feu dans cette contrée. Près de 100 habitations ont encore été incendiées hier suite aux tensions intercommunautaires. Un autre appel, c'est celui lancé au toit du village Kamabangi, invité par le ministre provincial de l'Intérieur du Katanga à vivre en harmonie avec les autres communautés. Des toits ont relevé à cette occasion leurs difficultés à se faire soigner dans des structures tenues par les Bantous. Le dossier Nous Nouvelles Sportives et la revue de presse, voilà ce que nous allons vous proposer dans la seconde partie de ce journal. Le calme est revenu à Mutanda, chef-lieu de Bwito, dans Rutshuru, Nord Kivu. Des jeunes Nandé Houndé avaient incendié hier des maisons après l'assassinat d'un habitant par des présumés Nyatura. Ces jeunes qui accusent les membres de la communauté Hutu de collusion avec les Nyatura ont gravement blessé un d'entre eux, les poussant à quitter le village pour se réfugier ailleurs. La MONUSCO, qui accompagne les autorités dans un processus de pacification de la région, se dit préoccupée. Le chef de bureau de Goma appelle les populations à se désengager de groupes armés qui cherchent à tout prix à attiser de nouveau le feu dans cette contrée. L'appel de Daniel Ruiz au micro de Bernard Danyangi.
Ce sont des groupes mafieux qui sont contrôlés par des bandits, des gens apparemment respectables qui sont derrière ces groupes armés pour avoir un bénéfice économique. C'est pour ça que j'engage les populations à ne pas suivre ces chants de sirènes, ne pas se laisser tromper par les meneurs, par les tireurs de ficelles qui sont derrière tout ça. Évidemment qu'on mène des actions qui seront en partie militaires, mais d'un autre côté, on a tout un programme de dialogue entre les communautés, entre les autorités, entre les notables, pour qu'ils ne laissent pas les communautés entrer dans les conflits organisés par les groupes mafieux.
Une délégation mixte au MONUSCO et autorités locales s'est rendue hier même à Mutanda pour évaluer la situation. Elle a fait état de 92 maisons incendiées, indiquent les sources de la société civile locale. Une recrudescence des cas de vol à main armée signalée dans la ville de Kisangani. Hier, une maison de transfert d'argent et des ventes de crédits téléphoniques, Airtel Money, a été visitée par des hommes en armes aux environs de 19h locales dans la commune de La Chopo. Les malfrats ont raflé toutes les recettes journalières estimées à plus de 3 000 $ américains. Le récit des faits avec vous, Donatien Aliana Alipanagama.
C'est à la clôture de la journée que le gérant de la maison de transfert d'argent Dose Finance s'est mis à faire sa comptabilité avec ses deux collaborateurs. C'est juste en ce moment qu'ils ont entendu des coups de balle devant leur porte d'entrée. Trois hommes cagoulés ont fait irruption et ont braqué tout le monde à l'intérieur de cette maison de commerce. Félix Baonga, gérant de la shop Dose Finance, relate les faits.
Nous qui étions en train de compter de l'argent, rassembler de l'argent, subitement nous attendons les sommations de coups de balle. Nous tous, nous étions sans contrôle, paniqués, couchés. Je vis le pied en bottine militaire. Il n'y avait presque pas la lumière. On m'a dit, quand tu bouges, on te tire dessus. Ils ont ramassé de l'argent, c'est-à-dire du cash et du virtuel qui était dans les téléphones, y compris tous les téléphones. Jusque là, on n'a pas encore évalué les montants apportés. Et en sortant, ils ont encore sommé les coups de balle.
C'est ce matin que la police a ouvert une enquête. Selon les propriétaires de la chope, le montant de l'argent emporté est estimé à plus de 3 000 $ et plus de 13 millions de francs congolais. Rappelons que pour le seul mois de février, la ville de Kisangani a enregistré 3 cas de vol à main armée dans 3 communes sur les 6 que compte cette juridiction. Donatien Aliana Lipanagama, Kisangani, Radio Okapi.
Restons dans cette partie du pays. Un défenseur judiciaire de Mambasa accuse le commandant de la police nationale congolaise de ce territoire de torture physique et d'arrestation arbitraire. L'incident s'est passé dimanche dernier au chef-lieu de cette entité, situé à 175 km au sud-ouest de Bunia. La victime, qui indique avoir été enfermée dans les latrines de la police, porte plainte. José Deschartes-Minga explique.
Maître Dieudonné Mboutendezi affirme qu'il avait rendez-vous avec un plombier qui devait aménager sa résidence. Ce dernier lui a dit qu'il devait se rendre à la résidence du colonel Ruti Mudagira, où il a oublié ses matériels de travail. Il a pris du temps pour revenir et son téléphone ne passait plus. C'est alors qu'il s'est rendu à la résidence de cet officier pour chercher le plombier. Selon lui, c'est juste à l'entrée de cette résidence que son calvaire a commencé. Maître Dieudonné Mboutendezi explique.
Il a ordonné à ces gens-là de me tabasser et lui-même aussi a allumé sa ceinture. Ils nous ont commencé à me tabasser sérieusement. J'ai même des plaies visibles sur le corps. J'avais une somme de 30 000 francs dans la poche que j'ai réservée pour les plombiers là en question. Ils ont tout pris. Ils m'ont amené dans une toilette du cachot de la police en bas. J'ai dormi dans la toilette jusqu'au matin.
Il affirme qu'il a adressé une plainte à ses sujets à l'auditeur supérieur, ce que confirme l'administrateur du territoire de Mambasa, qui dit être en possession de sa copie. Dieudonné Mboutendezi appelle les autorités judiciaires et les ONG des droits de l'homme à se saisir de cette affaire pour que justice soit faite. Toutes nos tentatives pour joindre le colonel Ruti mardi sont restées sans succès. Bounia, José Deschartemenga, Radio Okapi.
Parlons politique à présent. Le président Joseph Kabila a nommé hier Henri Mouvassa Kani comme vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il remplace à ce poste Emmanuel Ramazani Shadary en fonction depuis mai 2017. Henri Mouvassa a été jusqu'avant sa nomination secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. En cette période cruciale pour le pays, plusieurs défis attendent le nouveau vice-ministre de l'Intérieur, notamment sur le plan politique, sécuritaire, ainsi qu'en ce qui concerne l'administration des provinces qui ont du mal à fonctionner jusque-là. C'est ce que relève ici à Skinzi Batayoro.
L'insécurité persistante à l'est de la RDC, notamment à Goma, Djougou, dans l'Ituri, la présence de troupeaux de vaches dans les provinces de Kwilu et Kwango, voilà quelques dossiers d'actualité parmi tant d'autres qui nécessitent des éclaircissements et des solutions rapides de la part de Mouvassa Kani. Entre-temps, les nouvelles provinces peinent pour lancer leur développement, faute de moyens financiers et d'infrastructures appropriées. Il en est de même pour les assemblées provinciales dont les frais de fonctionnement n'arrivent pas comme il faut pour assurer le bon déroulement de leurs travaux en plénière. Tous ces problèmes attendent l'implication du nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur pour un dénouement escompté. Mouvassa Kani devra également gérer ses relations avec les gouverneurs de province qui, au nom de la libre administration de province, ne veulent pas subir le dictat du gouvernement central à travers les ministères de l'Intérieur. Même chose pour les assemblées provinciales qui veulent fonctionner en toute indépendance de manière à voter librement des édits pour le bon fonctionnement des provinces. La question de politisation du pouvoir coutumier n'est pas en reste. Quelques chefs coutumiers aimeraient avoir de fructueuses relations avec le ministère de l'Intérieur sans que cela ne puisse déboucher à des conflits.
Et dans la province du Kasaï, le vice-président de l'église Véritable Révélation de Melchisédek exhorte les autorités du territoire d'Ilebo à autoriser la marche de soutien au chef de l'État prévue ce dimanche 25 février. En quoi Edmond Lélé, les différentes correspondances adressées à l'autorité locale sont restées sans suite. D'où cet appel en vue d'une réponse favorable pour la tenue de cette activité. Edmond Lélé l'a dit à Mimi Ngumba.
Nous estimons que si les chefs de l'État et les autorités qui sont là, ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors avec tout ce qui se passe, nous ne voulons pas nous mettre en marge de tout ça. Nous tenons à réaffirmer cette volonté de Dieu qui veut que ces autorités-là soient en place. C'est dans cette optique-là que nous organisons cette marche. Depuis le mois de janvier, nous avons adressé une lettre aux autorités, notamment à l'administration des territoires. Mais nous avons le regret de constater que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune réaction des autorités. Et nous continuons à attendre jusqu'à présent. Parce que nous référons à l'article 26 de la Constitution. Quand vous voulez organiser une marche, vous écrivez à l'autorité, l'autorité vous répond. Nous avons écrit à l'autorité, mais l'autorité n'a pas réagi jusqu'à présent. Nous estimons que nous sommes encore dans les bons parce que la date s'est prévue le 25 et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une réaction de l'autorité. Nous continuons à attendre jusqu'à la veille. Au fait, nous sommes une église qui respecte la loi fondamentale. Nous serons obligés de nous soumettre à la volonté de l'autorité, soit reporter la marche à une date ultérieure en attendant ce que l'autorité voudra. Nous allons nous référer à l'autorité compétente établie.
Et d'après l'administrateur du territoire adjoint d'Ilebo, le retard dans la réaction de l'autorité est dû à l'absence sur place de l'administrateur actuellement à Mbushima. Et cependant, Crispin Condé renseigne que c'est depuis lundi dernier que l'administration a donné son aval pour cette activité. Dans le Haut-Katanga, les trois habitants du village Kamabangé, invités à vivre en harmonie avec les autres communautés, l'appel leur est lancé par le ministre provincial de l'Intérieur en séjour dans cette partie du territoire. Les trois ont à cette occasion relevé qu'ils éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner dans des structures tenues par les Bantous à cause des mesures de représailles. Des détails avec Martin Waila.
Le ministre provincial de l'Intérieur a demandé aux toits de Kamabangé de vivre en harmonie avec d'autres communautés. Pour cela, ils doivent renoncer à faire usage de flèches et autres armes blanches. Les toits ont profité de cette occasion pour stigmatiser les difficultés qu'ils ont à se faire soigner. C'est notamment lorsqu'ils vont se faire soigner dans les structures tenues par les Bantous, les personnels soignants qui les traitent font l'objet des attaques de Bantous. À l'heure actuelle, la plupart d'entre eux souffrent de plusieurs pathologies, dont le paludisme, la malnutrition sévère et les infections respiratoires. Autre conséquence, c'est que ça fait plusieurs mois, la campagne de vaccination contre la poliomyélite n'est pas organisée à Kamabangé. À cause de l'insécurité, il en est de même pour les vaccins de routine. Information confirmée par l'administrateur du territoire de Poueto. Sylvain Mati Palumande précise qu'il sollicite des humanitaires l'organisation des cliniques mobiles dans le but d'administrer les soins médicaux aux malades qui sont à Kamabangé. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
L'entreprise minière Tenke Fungurume a publié hier sa production pour le quatrième trimestre 2017. Elle annonce avoir produit environ 54 000 tonnes de cathode, de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt au métal. Sur le plan social, elle affirme avoir financé depuis son implantation des projets communautaires pour un total $1,500,000 américains. Autre détail à ce sujet avec Karine Topé.
Au quatrième trimestre 2017, la société dit avoir versé un montant d'environ $93 millions au titre d'impôts et autres paiements connexes au trésor public et autres services administratifs publics de la République démocratique du Congo. Pour l'année 2017, ces paiements sont de l'ordre de $256 millions américains. Dans son bulletin paru ce 20 février, TFM indique que depuis 2006, l'entreprise a financé les projets communautaires pour une valeur estimée à $151 millions américains. Au sujet de la production en 2017, cette entreprise minière indique que plus de 213 000 tonnes de cathode de cuivre et 16 419 tonnes de cobalt métal sous forme d'hydroxyde de cobalt ont été produits. Actuellement, TFM révèle qu'elle emploie environ 7 900 agents, dont 4 500 contractants. 98% de ces agents sont congolais. L'entreprise souligne que depuis 2006, elle a payé au trésor public environ $1,095 millions. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, cette grogne au fonds de promotion de l'industrie FPI. Les agents licenciés ont adressé un mémorandum au Premier ministre. Ils accusent leur directeur général Patrice Kitebi de règlement de compte, népotisme arbitraire, de décaissement financier abusif. Ils lui reprochent aussi d'entretenir une administration parallèle et de revisiter à double vitesse des grades d'une catégorie ciblée des agents et cadres. Au moins 37 agents seraient licenciés abusivement par Patrice Kitebi, soutiennent ses accusateurs. Écoutez à ce sujet Braza Lokambi, l'un des licenciés du FPI au micro d'Innocent Linga.
En une année, M. Patrice Kitebi a engagé 90 agents, chiffre que ses prédécesseurs ont réalisé pendant plus ou moins 5 ans. Ils ont des primes et en même temps ils ont des salaires, à la différence des agents qu'on a trouvés. Et certains parmi eux ont bénéficié de grades supérieurs non conformes à la convention collective. Ce sont des charges qu'il a amenées au niveau de l'entreprise et pour couvrir tout ça, il a pris comme stratégie de procéder au licenciement abusif. Actuellement, on en compte déjà 37 agents qu'il a licenciés, qui n'ont pas respecté de procédures. Il y a même des cadres qu'on a licenciés sans qu'il y ait l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il s'en fout de tout. Il doit procéder à la revisitation des grades statutaires, alors que les codes du travail, la convention collective ne prévoit pas la revisitation des grades parce que ce sont des droits acquis. Nous demandons au président de la République que s'il n'y prend pas garde pour placer à l'immédiat un fils maison au leadership de cette entreprise, l'FPI n'aura plus que de beaux bâtiments avec un personnel mécontent et démotivé.
Contacté par Radio Okapi, le directeur général du FPI en mission à Kalemi, par le biais de son chargé de communication, a déclaré, nous citons, « Les propos de ces agents n'engagent que leurs propres auteurs. Le FPI n'a pas de commentaires à faire. » Fin de citation. À la société de transport en commun du Kasaï central Transcac, l'heure est au bilan. Le gouverneur du Kasaï central a, au cours d'une séance publique hier, demandé à son comité de gestion de lui rendre compte la gestion de cette entreprise, ce qui lui permettra de relancer ses activités selon une nouvelle dynamique. François Kadima était sur place. Son reportage.
La société de transport du Kasaï central a démarré ses activités le mois de juillet 2016 avec 30 bus d'une capacité de 25 places assises chacun. D'après le comité de gestion de ce charroi automobile, ces engins avaient été obtenus par la province à crédit remboursable auprès d'une entreprise chinoise. Invité par le gouverneur de province, le comité de gestion de cette société a révélé que depuis que Transcac existe, environ 61 millions de francs congolais ont été versés à la comptabilité publique. Et le directeur général intérimaire de cette société d'ajouter qu'actuellement, 2 bus sont en circulation, 13 manquent de batterie et les 15 autres sont en panne. Alors que la province doit rembourser aux fournisseurs plus $1,600,000 américain, rien n'a été versé jusque-là, s'inquiète le gouverneur de province. Devant cette situation, Denis Kambayi a demandé au comité de gestion de lui présenter dans un bref délai un rapport détaillé sur la gestion de l'entreprise, ce qui lui permettra de prendre d'autres mesures. L'autorité provinciale a également exigé l'ouverture d'un compte pour cette société qui ne l'avait pas jusque-là. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité Afrique Monde.
En Syrie, la nuit a été marquée par des bombardements qui ont fait plus de 100 morts parmi les civils dans la Ghouta orientale. Le régime mène une violente offensive contre cette enclave rebelle. Les Nations Unies ont réclamé l'arrêt immédiat des frappes aériennes contre cette région assiégée où s'entassent plus de 400 000 civils. En Afrique du Sud, 5 policiers et un soldat ont été tués aujourd'hui par un gang de voleurs armés. Cependant, l'attaque d'un commissariat de police à Ekobo, une petite ville de la province du Cap Oriental. L'attaque a eu lieu peu après minuit. Au Tchad, il n'y a aucune parution dans les kiosques aujourd'hui. C'est une journée sans presse décidée par l'Union des journalistes tchadiens en collaboration avec d'autres organes de presse du pays. C'est pour protester contre les agressions que subissent les journalistes dans l'exercice de leur métier.